Mes deux grands thèmes de recherche depuis que je suis rentrée au CNRS, il y a bien longtemps, en 1982, ça a été essentiellement le développement des habiletés manuelles, avec comme question annexe le développement de la latéralité et plus généralement de la latéralisation, et plus récemment les mécanismes qui sous-tendent le développement du répertoire manuel du bébé. Donc en fait, je m'intéresse de plus en plus vraiment à tout ce qui est développement précoce. Donc, si tu veux bien, je commencerai un tout petit peu à parler des habiletés manuelles et de la latéralité. Et quand j'ai commencé à travailler sur la latéralité manuelle, en fait, on disait que le bébé n'était pas latéralisé avant, peut-être qu'il y avait des gens qui disaient 3 ans, il y avait des gens qui disaient 7 ans. Mais enfin, en tout cas, quand on disait le bébé a une main préférée, les gens nous disaient, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Le bébé n'a pas de main préférée. Alors, ce que nos études, on a fait pas mal d'études sur, en utilisant ce qu'on appelle maintenant notre baby, avec un jargon un peu anglais, notre baby test de latéralité, on a proposé systématiquement entre 5 et 15 objets, plus ou moins demandant plus ou moins de précision, qu'on donne au bébé, et on regarde la main qu'il utilise. Et si on ne voit le bébé qu'une seule fois à 8 mois, on peut très bien tomber effectivement sur une séance où il va prendre l'une main, l'autre main, c'est pas la prise d'objet n'est peut-être pas l'habileté sur laquelle la latéralité émerge le plus. Il faut peut-être mieux donner des tâches de précision, comme par exemple quand tu mets un tube dans un autre tube et que le bébé doit faire une pince, qu'on appelle, comme tu sais, la prise de pince, ou bien la coordination bimanuelle. Là, ce que tu observes, c'est que le bébé n'est pas fortement latéralisé, mais si tu l'observes par exemple en longitudinal tous les 15 jours, tous les mois, pendant la deuxième partie de la première année, à partir du moment où il prend des objets, c'est absolument clair qu'il a une main préférée. Et c'est clair aussi, ça c'est au niveau individuel, c'est clair aussi qu'au niveau de la population, tu peux effectivement tomber sur des cohortes de bébés dans lesquelles tu auras beaucoup de bébés non latéralisés. Il y a certainement plus d'enfants non latéralisés à 8 mois que à 3 ans. Mais il y a une constante, c'est que le pourcentage de droitiers est toujours beaucoup supérieur au pourcentage de gauchers. Dès le début.
On retrouve à peu près la même proportion que l'on va retrouver après.
Pas complètement la même.
Toujours dominante. Toujours
dominante. La droiterie est toujours dominante. Non, le pourcentage, c'est-à-dire que le pourcentage, ça dépend beaucoup du type de test, du nombre d'items, de ton calcul, de l'indice de latéralité, de ton critère pour décider que le bébé est droitier, non latéralisé ou gaucher. Donc d'une étude à l'autre, et c'est ça qui est un petit peu dommage, et c'est peut-être ça qui a joué des tours pour dire que le bébé n'était pas latéralisé, c'est qu'il y avait un manque de constance, si tu veux, dans la méthodologie, qui fait qu'on obtient des résultats un petit peu différents. Mais ce qui est de plus en plus clair, c'est qu'avec une méthodologie qui devient un petit peu plus
standardisé,
le bébé est latéralisé, a une main préférée. La plupart des bébés sont latéralisés, ont une main préférée dès l'âge de 8 mois. Et quand tu les suis en longitudinal, toutes les dernières études dans lesquelles j'ai suivi en longitudinal, mais aussi Jacques Vauclair par exemple dans ses études qui sont assez proches des nôtres, quand tu suis le bébé, tu le vois à 8 mois, 11 mois, 14 mois, 17 mois, 20 mois, la corrélation, il y a une légère augmentation de l'indice de latéralité, mais pas significative. Et la corrélation, la latéralité à l'âge de 8 mois, elle prédit déjà la latéralité de l'enfant à l'âge de 20 mois, tu vois.
Donc, et au-delà.
Donc, alors bien sûr, au-delà.
Vous avez pu revoir des enfants jeunes comme ça dépistés et revus au moment de la latéralisation à l'école?
Nous, non. Mais Hepper a regardé la latéralité, parce qu'en fait, nous, on dit qu'elle est dès la préhension, mais en fait, elle est déjà in utero. Ça, c'est pas nos travaux, c'est les travaux de quelqu'un qui s'appelle Hepper, qui a montré que dès l'âge de 16 semaines, le fœtus suce plus son pouce gauche droit que son pouce gauche. Et lui, il a observé ça sur à peu près 60, je me souviens plus du nombre d'enfants, mais sur un grand nombre de fœtus. Et il a retrouvé 75 de ces fœtus 12 ans plus tard. Et les 60 enfants, tu vois, les fœtus, il y avait 60 fœtus qui suçaient leurs mains. Leur pouce droit et 15 fœtus qui suçaient plus leur pouce gauche. Donc tu as déjà ce ratio que tu retrouves après ça dans l'appréhension. Et bien sur les 60 fœtus qui suçaient leur pouce droit, les 60 sont des enfants droitiers. Et sur les 15 fœtus qui suçaient leur pouce gauche, 10 sont des enfants gauchers. Donc effectivement, non seulement la latéralité apparaît très tôt, donc forcément déjà dès le début de la prise d'objet, mais en plus elle est prédictive de la latéralité plus tard. Alors ceci dit, observer la latéralité sur la prise d'objet n'est peut-être pas la meilleure des des situations. Il faut, plusieurs de nos études ont montré que si tu demandes à l'enfant plus de précision, c'est comme chez l'adulte, il va prendre plus avec sa main préférée qu'avec sa main non préférée. Alors que pendant longtemps, si tu veux, il suffit que tu mettes l'objet un tout petit peu plus à gauche et ce qu'il va utiliser, c'est la main ipsilatérale. Chez les bébés, c'est très fort. Mais même là, tu t'apercevras par exemple qu'il va plus utiliser sa main ipsilatérale quand l'objet est à droite que sa main ipsilatérale quand l'objet est à gauche. Mais la tendance à prendre, comme chez nous, je veux dire, si tu me donnes un verre de mon côté gauche, je vais pas tellement aller aller croiser. Donc les bébés, c'est pareil. Donc si tu ne fais pas extrêmement attention à mettre les objets vraiment au milieu, tu vas très très vite fausser tes observations. Alors, donc, la latéralité est plus forte si tu demandes plus de précision, d'accord ? Mais elle est également plus forte, elle peut être également plus forte si tu demandes des gestes bimanuels. Simplement, il faut, pendant longtemps, on a dit, là, il n'y a pas de latéralité bimanuelle, c'est beaucoup moins fort que la latéralité unimanuelle, et du reste, je ne sais pas si tu vois dans les échelles de latéralité, il n'y a pas beaucoup d'items bimanuels. Il y en a quelques-uns quand même, mais c'est pas les plus... d'après les gens, c'est pas les plus saturés dans le facteur de latéralité. Eh bien, en fait, tout dépend de la tâche bimanuelle. Si tu donnes une tâche bimanuelle avec des gestes bien complémentaires et asymétriques, où il y a visiblement une main qui va servir de support et l'autre main qui va être active, très vite, il y a une forte latéralité, une forte préférence manuelle, et c'est la main la plus active, la main préférée qui va être la plus active, comme quand tu épluches une pomme, ou quand tu ouvres une boîte de conserve.
En effet, en fonction de l'activité manuelle, on a remarqué ça chez les enfants un peu plus âgés, que ça joue. Ça ne reflète pas forcément leur latéralité en fonction de la tâche.
C'est-à-dire, si c'est une tâche... Alors, il faut faire attention, parce que il y a aussi le fait, chez les bébés, là, on sort d'une manip, là, qui vient d'être soumise, dans laquelle on a comparé des bébés sur une tâche qui avait été utilisée avec des primates, observée, en tout cas, chez des primates non humains, chez des gorilles et chez des babouins. Parce qu'on fait de plus en plus, d'approches comparatives entre le bébé et les primates. Et les gorilles, ils ont une activité d'alimentation qui consiste à prendre une touffe d'herbe et puis à piquer des petites touffes d'herbe et des petites herbes et à les manger. Donc c'est typiquement bimanuel, typiquement bien asymétrique et complémentaire. Et donc on a présenté ce genre de tâche à des bébés avec des objets à détacher, si tu veux, par exemple de 5 crayons avec chacun un objet, ou bien alors on leur a pris une branche et les feuilles pouvaient être détachées, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est que les bébés aiment tellement ce genre de trucs que tu n'as besoin absolument de rien leur demander. Tu leur donnes ça et ils te le font tout de suite. Alors là, c'est intéressant parce que, effectivement, si tu regardes la prise de l'objet, ils vont relativement souvent, de toute façon, prendre l'objet avec la main préférée. Mais ce qu'ils font très vite, et dès l'âge de 12 mois, et pas sans augmentation entre l'âge de 12 mois et l'âge de 20 mois, dès l'âge de 12 mois, quand ils ont pris avec la main droite, ils vont éventuellement passer dans la main gauche pour pouvoir effeuiller, exactement comme le gorille. On a des résultats très comparables. Tandis que s'ils ont pris avec la main gauche, ils vont jamais passer l'objet dans la main droite. Donc le transfert est vraiment un indice qu'ils planifient l'action. Alors ils l'ont peut-être pas planifié à l'avance, puisqu'ils ont quand même pris avec la main préférée et qu'ils sont obligés de faire une activité de transfert. Mais ça veut dire qu'ils planifient qu'il y a quand même une main qui est plus à droite que l'autre. Donc vraiment, dès l'âge de 8 mois, toutes nos observations montrent que dès la fin de la première année, 70% des bébés sont latéralisés, à peu près.
Et alors, quelle est la tâche qui est la plus marquante pour vous dans les objets que vous préférez ?
Alors, plus dans cette manip bimanuelle, on retrouve ce qu'on avait trouvé en unimanuelle. Si la prise que le bébé doit utiliser est une prise de pince, parce que c'est une petite feuille qu'il doit se retirer, il va être fortement latéralisé. Si c'est une prise qui implique toute la main, c'est moins évident. Je veux dire, il est moins latéralisé. Et on retrouve la même chose chez les primates. C'est-à-dire que il y a deux types de prises comparées inter-espèces, malheureusement, entre des gorilles et des babouins. Et les bébés, sur leur tâche demandant une prise de toute la main, sont comparables aux babouins qui n'ont pas cette tâche de précision très fine, et sur leur tâche dans laquelle les bébés doivent avoir une précision très fine, ils sont exactement comme comme les gorilles. Donc on a vraiment des résultats sur ce plan-là très proches sur le plan de la latéralité. D'accord. Et une autre chose que je voulais dire sur la latéralité qui me semble important, c'est que, alors, on pense que la latéralité est déjà observable. On a des preuves, donc elle est déjà observable in utero. Alors, ça fait dire éventuellement qu'il y a une origine génétique au fait d'avoir une préférence manuelle. La question qui se pose, c'est de savoir si c'est une origine génétique directe ou indirecte. Et aussi de savoir dans quelle mesure c'est une origine génétique qui contraint très fortement la latéralité manuelle. Alors, la première question, je dirais que je pense que une des grandes causes de la préférence manuelle pour la main droite in utero, c'est une cause posturale. C'est-à-dire que je pense que là-dessus, tu as éventuellement soit à être d'accord avec moi, soit à t'opposer, mais tu dois avoir ton avis là-dessus. Si on observe le bébé, le fœtus, dès 13-14 semaines, la position la plus fréquente n'est pas la position symétrique. Il commence déjà à avoir des positions asymétriques. La position asymétrique de la tête, avec la tête tournée vers un côté, elle va augmenter pendant la grossesse. Et elle sera de plus en plus vers la droite, chez 70% des fœtus à peu près. Et la tête tournée vers la gauche n'augmente pas, ne change pas, reste toujours très très faible. Or, si tu penses que le bébé commence avec des mouvements qui vont être des mouvements un petit peu au hasard et qu'effectivement il exerce sa motricité avec des mouvements qui ne sont pas intentionnels au départ, bah, très vite, les mouvements de la main droite, ils ont plus de chances d'arriver sur la figure que les mouvements de la main gauche. Et très vite, ce dont on se rend compte, c'est avec des études très récentes sur l'imagerie cérébrale, c'est que le bébé a une dynamique du geste qui n'est pas la même quand il va aller vers ses yeux ou quand il va aller vers sa bouche. Ce qui veut dire que quand il commence à implémenter des paramètres de mouvement vers son visage, il sait par les paramètres très vite, en fait, par la répétition, par la détection de régularité, très probablement, il sait que les paramètres sont tels que sa main va arriver là. Et donc, il a intérêt à ralentir avant d'arriver parce que se cogner dans l'œil, c'est pas très agréable. Et par contre, il ouvre sa bouche en avance quand la main va arriver à la bouche, ce qui veut dire qu'il sait, quand il entre ce genre de paramètres, que la main va arriver dans la bouche. Je ne sais pas s'il veut ouvrir la bouche et sucer son pouce, mais ce que je pense, c'est que ce que ces résultats montrent, c'est qu'en tout cas, il a repéré une régularité entre ouvrir sa bouche et faire ce geste-là. Et donc... Donc, ce que ça signifie, c'est que il y a quand même une certaine chance que le facteur génétique qui influence la préférence manuelle, ce soit un facteur postural. Il y a une autre possibilité, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est que les deux systèmes moteurs soient d'emblée asymétriques. Ça, c'est pas. Il n'y a rien. Tu peux imaginer que le système musculaire est asymétrique pour des raisons génétiques. Et alors là, il faut remonter depuis la division. Et bon, mais ça, c'est plus. Je dirais que c'est plus hypothétique comme
Oui, c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'histoire de la posture. Hein. Je pense que depuis longtemps, on avait montré ces asymétries et cette influence de la posture. Hein. Sur le réflexe même asymétrie du cou, ce sont des choses qui...
Alors ça, oui, attends, oui et non. Sur le réflexe asymétrique du cou, on disait que dès la naissance, effectivement... Ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, j'allais y venir. Dès la naissance, le bébé tourne plus la tête vers la droite. 70% des bébés tournent la tête vers la droite. Donc, effectivement, là, ils voient leurs mains. Et si tu mets un système de miroir et que le bébé ne voit pas, le nouveau-né ne voit pas sa main droite bouger, mais sa main gauche, à ce moment-là, il bouge plus sa main gauche que sa main droite. Ce qui a été montré in utero, c'est toute la théorie de Previc, qui montre que dans les dernières semaines de grossesse, dans les derniers mois de la grossesse, tu as le bébé et 70% des bébés sont tournés vers la gauche, que l'oreille droite est l'oreille qui donc est plus stimulée par le langage. Bon, Previc, c'était pas exactement ça, hein, du reste. Hein. Il pensait qu'effectivement les asymétries posturales étaient très importantes pour la latéralisation. Ce qui peut être relativement nouveau, et en tout cas moi, montre-le-moi si tu l'as déjà vu, mais je ne l'ai pas vraiment lu, c'est l'idée que la symétrie manuelle n'est pas forcément la conséquence de la latéralisation hémisphérique et que en fait elle vient très tôt pour des raisons posturales. Et même si les travaux de Hepper ne sont pas très nouveaux, cette conclusion qu'il faut arrêter de penser en termes d'asymétrie manuelle comme si c'était la conséquence de la latéralisation cérébrale avec des aires du langage plus dans l'hémisphère gauche et donc peut-être le contrôle de la praxis dans l'hémisphère gauche, ça, ce n'est pas du tout admis. C'est un peu mon hypothèse, mais ce n'est pas du tout admis. C'est-à-dire que oui, tu peux voir la différence même entre différents objets. Hein. C'est-à-dire que si tu demandes à des adultes avec... Alors ça, c'est au niveau du questionnaire, mais c'est assez corrélé avec la réalité. Tu demandes à une série d'adultes avec quelle main est-ce que vous allez prendre un livre, avec quelle main est-ce que vous allez prendre un vase, avec quelle main est-ce que vous allez porter un bébé. La réponse est majoritairement avec un livre. Il n'y a pas de réponse majoritaire avec un livre. C'est droite, gauche. C'est majoritairement à droite pour le vase et majoritairement à gauche pour le bébé. Donc, de toute façon, tu as... Les gens portent plus les bébés du côté gauche, même les droitiers. Donc, en fait, tu as une organisation qui va dépendre des objets. Par contre, même à l'intérieur des objets. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tu retrouves une théorie comme la théorie d'Annette, avec laquelle je suis en fort désaccord, du reste, qui dit la latéralisation de la préférence manuelle est finalement un épiphénomène de la latéralisation du langage. Et tu as aussi toute une théorie qui dit la praxis, le fait que la praxis et donc le contrôle de gestes complexes, comme par exemple pour l'outil, soit localisé dans l'hémisphère gauche, est premier. Et après, ce n'est qu'après que finalement les gens choisissent la main droite pour écrire, pour faire ci, pour faire ça. En fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une certaine indépendance entre tout ça. Et c'est une autre. Tu peux te dire, les gens ont été latéralisés pour le langage, du coup, ils ont été latéralisés pour la praxis, du coup, ils ont une préférence manuelle. Ou bien, au cours de l'évolution, les gens avaient une préférence manuelle. Et puis, petit à petit, la préférence manuelle, le langage est apparu, peut-être sous forme d'abord de gestes, la théorie gestuelle de l'origine du langage. Et du coup, le langage a été contrôlé dans l'hémisphère rouge. Tu peux avoir ces deux théories, ça peut aller dans les deux sens, d'accord ? Mais tu peux avoir une troisième théorie qui est finalement une certaine indépendance entre les deux. Et moi, j'aurais tendance, et d'après nos résultats, on a fait par exemple avec Jacques Bouclair, on a comparé la latéralité pour tout ce qui est manipulation et prise d'objet, la latéralité pour des gestes de communication. Alors, on a pris le pointage, on montre des marionnettes au fond d'une pièce, ça c'est pour les bébés humains, et on attend que les enfants montrent à la mère, à l'expérimentateur, ah, il est là, et les objets sont tout autour du bébé, tu vois, il y a des positions, c'est le test de Bishop, je pense que tu connais, et les marionnettes sont aussi tout autour du bébé. Et on a comparé, on a dit, on va prendre deux populations qui n'ont pas le langage, les enfants humains et les primates non humains. On a pris des babouins et des macaques. Eh bien, on obtient des résultats, alors là encore, complètement superposables. Les enfants humains et les primates non humains sont beaucoup plus latéralisés pour les gestes de pointage que pour les gestes de prise d'objet. Mais il y a une certaine indépendance entre les deux. C'est-à-dire que, de même qu'on retrouve que les gauchers sont finalement, même si c'est à 70%, ils ont le langage latéralisé du même côté que les droitiers, de même, les gestes de communication sont latéralisés de façon relativement indépendante. Et quand tu regardes le développement, tu n'as pas du tout l'impression que il y en a eu un qui s'est développé, qui a entraîné le développement de l'autre, ce qu'on aurait pu imaginer. On aurait, par exemple, il y a eu pas mal d'études qui ont cherché à montrer que quand le langage se développe, à chaque période importante du langage, le bébé devient plus droitier. Mais ça ne tient pas, ça, puisque finalement, la droiterie, tu l'observes bien avant qu'il y ait du langage. Donc, en fait, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est peut-être que le langage entraîne une spécialisation de l'hémisphère gauche pour tout ce qui est séquentiel, coordonné, etc., et que le langage se met là-dessus, mais ça non plus, ça ne tient pas. Moi, je crois franchement qu'on peut parler d'une relative indépendance entre la latéralisation du langage et la préférence manuelle et les praxis.
Oui, on voit bien qu'il y a une réorganisation qui se passe.
Je suis d'accord avec toi, et je pense qu'une des raisons pour laquelle ça se réorganise assez souvent, c'est qu'en fait, la contrainte que te donne cette posture d'origine génétique, les expériences utérines liées à cette posture, elle n'est pas forte. Donc pour moi, si tu veux, il y a une certaine contrainte.
Elle n'est pas sous contrôle, en fait.
Elle n'est pas forte. C'est, on est légèrement programmé, disons, enfin programmé, pas directement pour être droitier, mais le programme fait qu'on a peut-être un peu tendance à être droitier, mais il ne suffit de pas grand-chose pour changer. Et donc, cette contrainte, elle est très faible. Et donc, à la naissance, très vite, tu vois les autres être droitiers. Nous, on a fait une étude sur d'abord, à la naissance, tu as toujours cette contrainte posturale. Et puis, au moment où tu prends l'objet, tu as l'influence aussi. Alors là, tu as l'influence de l'environnement. Nous, on a pris des objets. Tu sais qu'une des... un des arguments pour dire que la latéralité était d'origine génétique, c'est de dire il y a des familles de gauchers, d'accord. Or nous, on a montré que si tu prends des droitiers de 12 mois, que tu leur fais des démonstrations, tu leur montres, je sais pas, 5 nouvelles tâches, et c'est un expérimentateur gaucher qui leur montre comment faire la tâche. Tu les as testés avant, tu as vérifié qu'ils étaient parmi les enfants à tendance droitier. Tu leur montres 2 minutes de démonstration. Et tu t'aperçois qu'ils se prennent leur main gauche. Donc tu te dis là-dedans, peut-être qu'il y a une latéralité familiale, mais peut-être que la latéralité familiale, elle peut être expliquée par autre chose que par les gènes aussi, de toute façon. Et donc, tu te retrouves devant une contrainte assez faible à la naissance, mais malgré tout qui est renforcée parce qu'on voit sa main à la naissance, parce qu'on voit des droitiers à la naissance, mais comme la contrainte est faible, elle reste toujours faible. La notion de plasticité, elle est impressionnante. Tous les exemples de gens qui ont eu il n'y a pas d'exemple de gens qui n'aient pas pu changer de main. Il n'y a pas d'exemple les gens sont plus ou moins souples, tu as eu des difficultés. Mais tous les gens qui ont un accident, qui sont obligés de changer de main, peuvent. La main gauche peut travailler chez les droitiers, la main droite chez les gauchers. Simplement, bon, tu as un léger avantage qui fait boule de neige, qui s'accumule, et il y a un moment où, avec une activité hyper automatisée, répétitive comme l'écriture, tu vas plus changer de main. Plus l'activité est répétée, plus tu vas changer de main.
Sauf chez l'enfant, ça, c'est ce que l'on voit. On voit des enfants notamment qui ont, pour X raisons, changé de main. On va dire qu'on va appeler ça des enfants presque neurologiquement droitiers ou gauchers. Ça, on voit régulièrement. Ouais. Eh bien, on voit qu'ils peuvent en fait, bien sûr, utiliser l'autre main, mais qualitativement. Et lorsqu'on prend tous les indices derrière, justement, des mentaux autour de ça, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas du tout le même profil. Et moi, je peux voir la trace.
D'accord, ça c'est intéressant.
On a vraiment la trace de la désorganisation.
On peut peut-être parler, pas vraiment d'ambidex, mais de peu latéralisé, dans lequel il y aurait peut-être quelques ambidex, 1% d'ambidex réel, à l'aise, heureux, qui te commence au tableau en écrivant comme ça, qui te continue comme ça avec la main, et qui n'ont pas de problème, qui sont vraiment très bien. Tu as peut-être beaucoup d'enfants qui sont peu latéralisés. J'aurais juste finir ma phrase. Oui, on est en train de faire une étude, donc on a fait un questionnaire sur à peu près 1000 personnes pour essayer de repérer des ambidex et pour voir en quoi les ambidex, comment étaient latéralisés sur le plan du langage les ambidex, et surtout les relations aussi avec les échanges interhémisphériques, puisque l'idée c'est que les ambidex auraient éventuellement des échanges hémisphériques plus faciles et qu'il n'y a pas eu de coupure qui s'est fait, et le besoin d'être latéralisé d'un côté pour certaines choses, de l'autre pour certaines autres, parce que de toute façon tu as des échanges, etc. J'ai quand même à peu près sur la population que j'ai à peu près alors ça dépend du critère, 1, 2, 3% d'ambidextres de gens vraiment qui te disent qu'ils font. Alors tu as deux types d'ambidextres, tu as les gens qui font tout avec chaque main, et tu as les gens qui font exactement la moitié, ou pas exactement, mais une bonne partie des choses avec une main, et une bonne partie des autres avec l'autre main. Les gens, t'es un petit peu mieux organisé. Mais il y a quelque chose qui ressort toujours des ambidextres, c'est qu'ils te disent maintenant ça me gêne plus, au contraire, je suis très content, je suis vraiment bien. Mais quand j'étais enfant, ça me gênait, parce que la première chose, c'est que quand on avait un devoir sur table en temps limité, je ne savais pas quelle main j'allais prendre. Et c'est vrai que l'intérêt d'être latéralisé, c'est que tu n'as au moins pas le souci de te dire avec quelle main je vais écrire. Ça vient tout seul.
Oui, mais ça va au-delà de ça. Ça va avec tout ce qui est de l'organisation spatiale aussi.
Alors, oui, c'est ça. J'aurais dit effectivement, tu as un continuum, comme dit Annette, là tu as la raison, un continuum de latéralité et de latéralisation. Et dans ce continuum, il y a quand même quelques personnes qui se retrouvent exactement entre les deux. Et je dis, le terme d'ambidex, moi j'y tiens pas spécialement. Je pense qu'il y a surtout des gens qui sont peu latéralisés. Et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont peu latéralisés. Bon, donc
oui, mais pour ceux que l'on voit, tous ceux que l'on voit qui sont peu latéralisés nous invitent à regarder d'autres fonctions et voir qu'il y a des corrélations avec d'autres fonctions.
Tu vois, on pourrait travailler, je t'envoie mes ambidextres et puis on peut aller approfondir un petit peu plus loin.
C'est intéressant de voir sur le plan clinique.
Aller un peu plus loin et tu pourrais me proposer des trucs, qu'on pourrait les retrouver, etc.
Et même sur les enfants, c'est une partie là, mais peut-être sur les enfants, mais tu vois, qui sont plus jeunes, sur lesquels tu as déjà une latéralité. Ce qui serait intéressant, c'est de les voir sur le plan des autres fonctions de latéralité qu'on regarde sur le plan clinique, et de voir si on a plus rapidement sur cette catégorie d'enfants une réorganisation, une organisation aussi hémisphérique. Est-ce qu'on peut le voir sur le plan gestuel, sans matériel et sans le plan du tonus, voir comment ça s'organise, parce que ce que l'on voit nous aussi, c'est que chez les enfants qui ont une latéralité qui se met très tôt, très précocement en place, on voit que le reste suit. C'est-à-dire que c'est pas isolé, c'est-à-dire que cette latérité usuelle, en effet matérielle, qui s'est comme ouais. ça, qui est mise en évidence, on la retrouve après sur l'examen clinique aussi.
Tu veux dire un enfant qui se repère tôt est un oui. enfant qui oui. a aussi un oui. schéma corporel.
On voit très vite les, mmh. et puis on voit très vite dans les autres items de latéralité que le tonus suit, que tout ça s'organise. Mmh. Donc il y a une vraie organisation ouais. sphérique qui suit.
Ouais. Par contre, sur le plan cognitif, je ne trouve qu'il y a de moins en moins, enfin, il n'y a vraiment pas de preuve qu'il y a un coût cognitif à être gaucher. Et, alors, à non-latéralité, je ne sais pas, parce que je pense de plus en plus, quand toutes les populations atypiques que j'ai testées, il n'y a pas plus de gauchers, contrairement à ce qu'on disait avant, mais il y a plus de non-latéralisés. Plus de mal latéralisé. Toutes les populations,
ah oui,
d'une façon générale, tous les troubles du développement sont associés à un déficit de latéralité et de latéralisation. Par contre, je ne retrouve pas dans le cadre des tout-venants, si tu veux, un lien, et je ne retrouve pas d'article qui le montre, ou très peu, et pas du tout convaincant, entre le fait d'être droitier, d'être gaucher, d'être ambidextre ou moins latéralisé, et le niveau cognitif. Ce qui se passe, c'est que c'est pas si important que ça d'être latéralisé, d'utiliser, d'avoir une main préférée. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas contraint à avoir une main préférée. Ça dépend de ce qu'on va faire, etc. C'est variable avec la tâche. C'est peut-être pour ça qu'on donne une importance, en tout cas, je pense, à la main préférée qu'elle n'a pas. Tant que tu restes dans une population tout venant, ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que tant qu'on a un niveau de contrôle, un niveau cognitif, un niveau de conscience de son corps qui ne pose pas de problème, on peut être droitier, on peut être gaucher, on peut être peu latéralisé, on s'en tire. Et que par contre, dès que tu es à la frange de la population qui est fragile et qui est difficile, le fait d'être latéralisé, d'abord, tu peux trouver plus de non-latéralisés et surtout le fait de latéraliser aide, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux effectivement améliorer tes repères parce que tu as au moins une main préférée, etc. Tu peux pas envisager ça?
Si,
la latéralité est importante dans la frange de la population qui a des problèmes, de la population d'enfants à difficulté de développement, et que par contre tu as une différence interindividuelle avec beaucoup de façons de s'en tirer, comme on le remarque toujours chez les enfants tout venant, tu peux avoir plusieurs profils, c'est pas si grave que ça. Par contre, il y a un stade, si tu veux, de troubles du développement où ça devient très important, effectivement, peut-être. Moi, tu vois, par exemple, l'autre chose dont j'allais te parler, c'était l'apprentissage de l'outil et les mécanismes de développement du répertoire moteur, du répertoire manuel, puisque moi, je m'intéresse au répertoire manuel. Et entre autres, on s'intéresse énormément et de plus en plus à l'apprentissage par observation. Quand tu regardes des bébés qui apprennent des outils dans leur deuxième année, l'outil qu'on demande, c'est un outil bien précis, c'est un râteau pour rapprocher un objet. D'accord. Et ce qui est un truc très étonnant et un peu contre-intuitif d'une certaine façon, c'est que pendant très longtemps, un enfant peut ramener un objet, effectivement, s'il est à l'intérieur de l'outil, s'il est contre l'outil, s'il est sur l'outil. Mais dès qu'il doit déplacer de quelques centimètres l'outil pour aller chercher l'objet, ça lui pose un problème énorme. Non seulement spontanément, que tu peux comprendre, mais même quand tu lui montres, comme si tu lui montres, mais regarde, c'est simple, ça ne change rien jusqu'à l'âge de 18 mois. Et donc ça, j'ai pas le temps de parler de ça, de toute cette implication de l'apprentissage par observation, mais on a analysé dans nos manips la façon dont s'organise la main préférée pour prendre l'objet, pour prendre l'outil, et dont les enfants réussissent plus ou moins bien suivant que ils sont latéralisés ou pas latéralisés. Et les deux résultats que j'observe, c'est le premier, c'est que, alors c'est un travail que je fais avec Kevin O'Regan, et puis qui a été une manip qui a été faite par ma thésarde, Lauriane Radfischer essentiellement, et on travaille aussi avec Rana et Célie. Si on regarde, si tu mets l'objet, le jouet à rattraper, le jouet est trop loin, le râteau a une poignée que le bébé peut prendre. Si tu mets le jouet à gauche du râteau, la plupart des enfants à partir de 20 mois vont prendre le râteau avec la main droite. Si tu mets l'objet à droite du râteau, ils vont prendre le râteau avec la main gauche. Donc, dès un certain âge, ils vont repérer que, effectivement, comme les gestes sont plutôt comme ça, ils anticipent que ce sera plus facile. Donc, le côté du jouet va influencer la main choisie. Donc, ça, c'est une première chose. C'est quelque chose qui apparaît très tôt, même plutôt que ce que j'aurais pensé. J'aurais pas pensé que des bébés, d'emblée, vous voyez, le râteau est au milieu. Il a autant de chances de le prendre d'une main que par l'autre. Et la deuxième chose, c'est que si tu compares les enfants très latéralisée et les enfants peu latéralisés, tu n'as aucune corrélation entre leur, leur habileté à utiliser et à comprendre le râteau et leur latéralité manuelle. Donc c'est pour ça que je te disais, je pense que tant que tu te situes dans une partie de la population tout venant, tu as énormément de différences interindividuelles et finalement elles font pas énormément de, elles n'ont pas énormément de conséquences. Tu as beaucoup de façons de, d'arriver à être compétent. Par contre, je pense que si je testais sur le, l'outil des populations d'enfants avec des troubles du développement, je pense là que j'aurais une corrélation entre la latéralité, le fait d'être bien latéralisé et la performance.